Bonsoir et bienvenue pour La Relève, le quinzomadaire radiophonique de Radio Campus Paris consacré aux nouveaux talents et aux récits originaux, à moins que ce ne soit l'inverse. Ce soir, on devrait, si tout se passe bien, parler d'identité et de fantaisie. Mon invité est romancier. Mon invité est romancier et mon micro est fatigué. On espère que ça va bien se passer. Allez, bonsoir Charles Flamand.
Bonsoir Christophe et bonsoir Radio Campus Paris.
Si j'en crois votre éditeur, vous êtes une plume du très chic journal Regain, le journal des campagnes. Vous avez déjà publié Mercure, un roman performance publié sur les réseaux sociaux il y a quelques années. Et à l'Ouest, un poème épique dédié à l'océan Atlantique. Enfin, si ce soir vous êtes là, c'est pour parler de Chez la Turque, votre premier roman, j'ai envie de dire, classique publié au Hasard Édition. Pourquoi avoir publié, attention la question qui tue, pourquoi avoir publié un livre papier, un livre classique, alors que vous aviez été dans les premiers à écrire un livre, un récit en ligne sur les réseaux sociaux? Est-ce que vous avez eu envie de vous surprendre? Vous ne vouliez pas refaire ce que vous avez fait, vous avez envie à chaque fois de faire quelque chose de nouveau? Ou vous vous sentiez enfin prêt pour écrire un livre, enfin pour publier plutôt un livre sur du papier?
Je pense qu'il y a un peu de tout ça. En effet, je suis passé par Internet d'abord pour publier mes écrits. Pour les propager. Et d'ailleurs, en fait, l'idée sur Internet est un principe de diffusion, c'est-à-dire que c'est le roman en temps réel qui a permis de faire parler de mon texte. Et ça, en fait, voilà, je suis...
L'idée comptait plus à l'époque presque le texte, vous avez l'impression ?
En tout cas, pour faire parler du texte, oui. C'est-à-dire qu'ensuite, que les gens aient apprécié le texte, c'était un plus. Mais c'est sûr que l'idée a été à la base le principe de diffusion, comme aujourd'hui, le livre est aussi le principe de diffusion, et qui se retrouve en librairie. Alors, en effet, il y a un peu de tout ça. Je voulais toujours essayer de nouvelles choses et ne pas refaire ce qui a déjà été fait. Peut-être que j'y reviendrai plus tard.
Mais à l'époque, vous n'aviez pas du tout envie d'écrire. On va le dire, moi à l'époque je vous avais rencontré. Et d'ailleurs vous étiez même venu, vous êtes venu à la première émission de La Relève il y a 10 ans maintenant. On ne va pas faire semblant. Je ne vous connais pas plus que ça. Mais il n'empêche que je me souviens très bien qu'on avait parlé. Donc, parce que vous étiez venu comme publicitaire parce que vous aviez fait une super campagne pour la sécurité routière. Et vraiment, je ne vais pas raconter toute l'histoire de La Relève. Je renvoie les gens aux archives qui sont en ligne. Mais vous ne vouliez pas publier de livre papier. J'avais l'impression que vous teniez beaucoup au médium en ligne.
J'y tenais parce que je suis né avec Internet et que j'en ai fait l'usage très tôt et que ça a été naturel chez moi. Mais l'horizon et le livre. D'ailleurs, le texte à l'époque parlait du livre. Donc en fait, à la base, à l'origine de mon envie d'écrire, il y a une fascination pour le livre parce qu'en fait, c'est mon grand-père qui a été le passeur de connaissances de ce point de vue-là, qui m'a fait rentrer dans son temple un peu, qui était sa bibliothèque. Et voilà, l'aspect sensoriel du livre, le grain du papier, ce côté parcheminé, tous ces trésors qu'on ouvre, portant des noms et des titres à chaque fois différents, ça a été vraiment le point de départ, le tremplin vers cet horizon littéraire qui est aujourd'hui le mien.
Allez, on va parler du roman Chez la Turque. Hein. Donc, je le redis, il est paru aux éditions, au Hasard Édition. Moi, si je devais le résumer en deux mots, je dirais que j'ai trouvé à la fois singulier et familier. Est-ce que ça vous va? Et vous diriez quoi pour en parler?
Alors, singulier, ça me plaît parce que je pense que un texte doit être singulier, il faut qu'il soit original. C'est d'ailleurs en cela qu'on peut parler d'un style, je pense. Il faut se faire un style comme une seconde peau, disait Valérie. Voilà, c'est cette singularité que j'ai voulu exprimer, la singularité de ma personnalité, de mon âme, de mon parcours, de mon histoire, que j'ai voulu cristalliser dans ces pages. Familier, parce que, en effet, j'adopte votre définition, Christophe, singulier. Et familier. Et j'y vois une certaine dualité, disons, un mélange des genres entre parfois des pages plus ou moins poétiques et d'autres plus ou moins grotesques. Et ce mélange des genres.
Vous pouvez même aller jusqu'au trivial parfois.
Jusqu'au trivial, évidemment. Ce mélange des genres, en fait, c'est ce qui me plaît. C'est que d'une page à l'autre, on ne sache plus très bien où on en est et qu'on passe voilà, entre différentes atmosphères et en fait qu'on s'y surprenne à chaque fois.
Alors, tout commence quand Roland Magenta, si ma mémoire est bonne, part pour la Normandie dans ce qui ressemble à un TER pour répondre à une offre d'emploi que lui a confié son agent Pôle emploi, France Travail, Pôle emploi, ça commence à dater. Et ce qu'il l'attend, c'est un emploi un peu particulier.
En effet, tout commence chez France Travail. Et il va se retrouver, il arrive en fin de droit, Donc de là, il n'a déjà pas le choix. Et on va lui proposer un travail un peu particulier qui l'emmène en Normandie.
Qu'il ne connaît pas, a priori.
Il ne sait pas du tout ce qu'il va faire, qui il va rencontrer. En tout cas, il y va parce qu'il est désœuvré, il est jeune, il est naïf et il a besoin de travailler.
Donc, et là, il arrive chez la Turque.
Il arrive chez la Turque qui n'est autre que chez moi. Donc en fait, ce Roland Magenta, c'est mon double littéraire et je me mets dans ses souliers pour arriver là où j'ai grandi. Donc c'est un peu comme le recul du peintre, si vous voulez. Il va avoir une perspective générale sur son tableau. Moi, je me mets dans les bottes de quelqu'un d'autre et je regarde là où j'ai grandi à travers ce regard pour m'y surprendre moi-même, en fait.
Alors, qui est cette Turque, quand même ? Parlez-en un peu aux gens qui nous écoutent.
Alors, cette Turque, oui, c'est un personnage féminin, intrigant, exaltant, passionnément humain, je dirais. Très complexe.
Un peu exubérant.
Exubérant, cruel. Enfin, voilà, c'est toute la panoplie des sentiments humains. On peut la retrouver chez elle. C'est un personnage qui vit reclus en sa demeure, un peu comme Barbe Bleue. Sauf que là, donc, c'est une femme. Voilà, j'inscris ce texte dans la lignée d'un conte à la Barbe Bleue, puisqu'il y a l'étranger qui arrive chez cette dame qui le reçoit et qui va lui proposer un pacte vénéneux, un peu comme Barbe Bleue propose un pacte à ces jeunes femmes. Là, le pacte, c'est qu'il va devenir son modèle vivant et en retour,
Car elle peint,
c'est une peintre, oui. Et il va devenir son modèle vivant et à la fin du tableau, dont il n'a pas le droit de voir l'élaboration en cours, là est le secret, là est la curiosité. Peut-être posera-t-elle son nom sur le testament. Donc il y a aussi l'idée de propriété peut-être qui est à l'horizon de ce roman. Et de ce pacte vénéneux, en fait, se noue une relation voilà, complexe, comme toutes les relations humaines. Et le personnage va vivre comme je l'ai vécu dans ce village, de manière voilà, telle que je l'ai vécu moi.
Enfin, mais vous avez grandi là-bas, vous n'avez pas signé
là-bas.
Le pacte.
J'ai pas signé le pacte, mais j'ai signé le pacte familial, disons que voilà.
Mais c'est marrant parce que vous évoquiez Barbe Bleue. Moi, je me suis demandé si vous n'aviez pas voulu jouer au Mille et une Nuits inversées à un moment.
Mm-hmm.
Oui. Vous aviez aussi, parce que c'est cette idée d'Orient, moi, ça m'a tout de suite fait penser à ça.
Oui, il y a cette... orientalisme contemporain. Une Turque en Normandie, ça peut paraître invraisemblable. C'est pourtant inspiré de faits réels. C'est inspiré de ma famille, de mon grand-père qui est né à Constantinople avant la chute de l'Empire ottoman, d'un père qu'on ne connaît pas. Donc voilà, notre généalogie s'arrête très vite. Ça laisse en fait...
Il y a place pour se raconter des histoires.
Exactement, ça laisse la place à la
légende. On a un point commun sur ce point-là.
Ah, oui. Et je pense qu'on a tous ce point commun-là. On a tous... voilà, à part quelques familles qui savent remonter très très loin dans le passé, on a cette part de mystère et de lacune dans notre histoire très intime qui fait que, en effet, ça laisse de la place pour le récit, pour la légende, pour le mythe. Et moi, c'est ça qui m'a intéressé.
Alors, il y a une part pour le mystère et pour inventer une légende, mais il y a une chose qui est sûre, c'est la Normandie. Et la Normandie, elle est presque, j'ai envie de dire, maternelle pour le... En tout cas, pour le récit, c'est ce que vous vouliez aussi raconter. On a l'impression que vous avez aussi voulu raconter la Normandie, en tout cas la vôtre.
Tout à fait.
Parce que j'ai l'impression qu'il y a des Normandies.
Tout à fait. Il y a Jean Rau qui a ce concept qui me touche beaucoup. Il parle du lieu source. Le lieu source, c'est ce lieu d'où jaillit le texte, d'où va sourdre tout le texte. Et en fait, moi, je trouve que c'est éminemment vrai pour moi et je pense pour beaucoup d'autres. C'est-à-dire que c'est en se penchant sur ce paysage natal, sur cette maison familiale, que naturellement, et c'est lié tout simplement à la crise du Covid, hein, je suis arrivé chez moi dans ma maison familiale et j'ai commencé à l'écrire. Désœuvré, j'ai commencé à l'écrire.
Et finalement, le Covid a eu du bon pour vous.
Ah, le Covid a eu du bon pour moi.
Peut-être même pour la littérature.
Ça, je vous laisse le dire. Mais voilà, c'est vrai que la Normandie, il me tenait à cœur de lui déclarer mon amour, d'empreindre ses pages, ses sensations normandes, de l'odorat du varech, bien sûr de la bouse de vache, du calvados au fond des verres.
Oui, on boit beaucoup de calvados.
On boit beaucoup de calvados à chaque page, ouais. Ça, c'est sûr.
Il faut que je rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Vous avez un peu répondu à cette question, mais je vous la pose quand même. Ce personnage de la Turque, c'était malgré tout pour décaler, pour ne pas tomber trop dans ce que vous connaissiez. Vous aviez besoin de raconter quelque chose de proche, mais en le mettant à distance ?
Tout à fait.
Pas besoin ou envie, je ne sais
ouais,
pas.
Ouais, vraiment envie. Besoin, je ne sais pas. Mais clairement, une envie sincère et authentique de créer une histoire qui me parle et qui parle à tout le monde. Alors, en effet, j'écris pour moi, mais j'écris aussi pour les autres. Je pense aux lecteurs. Et je pense qu'un récit familial n'aurait pas été suffisant pour intéresser mon lectorat. C'est-à-dire qu'il fallait, je pense, exagérer le trait, en tout cas trouver mon style, ma voix, et qui est aujourd'hui dans l'exagération des traits, c'est-à-dire un réel, et d'ailleurs c'est le nom de cette collection qui a été lancée par l'édition Hasard, le réel détraqué. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est comment je reprends mon histoire familiale et j'en détraque la réalité pour arriver à un conte moderne. En effet, c'est comme ça que j'arrive à des personnages plus exubérants que nature, plus grands que nature.
Et tout ce qui est un peu surnaturel dans le roman, bien sûr, est-ce que ça existe ou pas ? Est-ce qu'il y a aussi ça dans le roman ? Il y a une partie un peu... Il y a quand même des pièces un peu bizarres, il y a des rêves étranges, il se passe des choses la nuit, on ne sait pas si elles sont vraies ou pas.
Oui, il y a du réalisme magique, je dirais. C'est-à-dire que le mythe et la réalité se côtoient dans ces pages, comme en fait le vrai et le faux se côtoient dans n'importe quelle fiction. C'est-à-dire que la fiction, c'est vraiment... Il n'y a pas de pure fiction, c'est toujours une hybridité de détails vrais et de détails faux. Et en fait, je pense que toute la tension du roman naît de là, c'est-à-dire que la Turque va raconter son histoire à ce jeune Roland qui va devoir l'écrire. Et en fait, très vite, il va se rendre compte que son rapport à la mémoire et au souvenir, c'est un grand bazar. Un grand bazar où se côtoient des bibelots complètement faux et d'autres qui sont des pièces d'histoire. Et c'est comme ça qu'il va raconter son histoire et que le roman s'écrit au fil de ses pages.
L'histoire que vous racontez, parce que ça, j'avais envie de savoir si c'est vrai, je ne vais pas vous faire tout un par un, mais est-ce que vraiment il y a ce que vous dites à, comment ça s'appelle ? Alors, attendez, à la Mecque de la coquille Saint-Jacques, à Port-en-Bessin, est-ce que c'est vrai que c'est le berceau de la coupe mulet ? Parce que
c'est
vrai là aussi comment vous êtes capable de mélanger plusieurs niveaux de récit, pardon.
C'est vrai pour les deux. C'est vrai que dans les années 90, aussi, c'est peut-être lié à cette époque où le mulet était à la mode. En tout cas, je me souviens que sur la côte normande, ce port de pêche, les pêcheurs avaient le mulet. Donc moi, je l'explique ainsi, c'est-à-dire le front dégarni pour pas avoir les cheveux dans le vent et les cheveux longs dans la nuque. Pour
avoir chaud quand il fait froid.
Exactement. Et donc des petits détails marrants, mais en tout cas aussi une réalité concrète qui est que c'est le port de la coquille Saint-Jacques. Et j'ai moi-même pu enquêter là-dessus pour le magazine Regain.
Ouais, c'est comme ça que vous y êtes allé au départ.
Ce qui est drôle, c'est qu'en fait, dans l'écriture, les enquêtes journalistiques vont pouvoir contaminer la fiction et qu'en fait, n'importe quelle aventure que l'on vit va pouvoir être transcrite ensuite dans une fiction.
Vous faites dire à Zora, donc, qui est la Turque, la fiction est aussi... Et oh là, on vient d'échapper à une liaison terrible. La fiction est aussi importante que la vérité, mon biquet. Elle permet à la vérité de voyager à la vitesse de l'émotion.
Oui, c'est une machine à aphorismes, cette Zora. Ces aphorismes, celui-là est de moi, j'en ai eu l'idée, mais beaucoup me viennent de mon grand-père. C'est un peu le langage familial là aussi, c'est la langue familiale. Et d'ailleurs mon grand-père malheureusement n'est plus vivant, il aurait je pense beaucoup aimé lire ces pages et voir que j'en ai fait un personnage. Mais voilà, c'est une machine à aphorismes qui va raconter la vie, raconter l'histoire à ce jeune Roland et qui va le dominer à tout point de vue. C'est-à-dire que c'est un monstre de savoir. Elle le nourrit, elle le loge, elle le peint, elle l'objectifie parce que c'est elle la peintre, lui le modèle. Donc c'est vraiment une relation.
Et il n'a pas le droit de voir en plus ce qu'elle fait.
Ouais, c'est vraiment une relation homme-femme où l'homme est au pied de cette sultane qui lui fait faire tout ce qu'elle veut, tout simplement. Et il en est plutôt content. C'est là où l'homme est captif volontaire de la femme.
Et est-ce qu'on peut dire, parce que quand même, on est en Normandie, on pense forcément à un grand Normand. Est-ce que la Turque, c'est vous ? Est-ce que vous pourriez dire la Turque, c'est moi ?
La Turque, c'est moi. Mais c'est aussi mon grand-père, c'est aussi mon père, c'est aussi ma mère, c'est aussi ma grand-mère qui était peintre. C'est un mélange de toutes ces figures familiales. C'est une synthèse. C'est une synthèse, c'est-à-dire que c'est comme un tissu, une parure ottomane rapiécée avec des morceaux d'ici et des morceaux de là et qui en font un personnage unique, qui n'est pas vrai, qui n'est pas exact, mais qui est vrai.
Alors, on a insisté sur le côté fantasque du personnage, sur toute l'inventivité de votre écriture aussi. Il y a aussi en arrière-fond de votre livre un récit sur, m'a-t-il semblé, sur la vie des campagnes aujourd'hui. En tout cas, est-ce que c'est ce que vous avez voulu faire ? C'est peut-être aussi ce que vous avez vu en faisant votre travail de reporter pour le nom va revenir pour Regain. Parce que on voit bien qu'il y a une tension dans ce village entre la Turque qui semble attachée à un passé et qui aimerait le préserver, et le maire, qui est un personnage qui aimerait faire venir les Parisiens. Oui. Il y a, malgré toute la fantaisie, malgré le côté un peu atemporel, voire même pas atemporel, mais pas vraiment d'aujourd'hui du livre, vous arrivez à raccrocher quelque chose de très contemporain.
Alors en effet, c'est un huis clos à ciel ouvert, c'est-à-dire que le personnage va d'abord être prisonnier des murs, puis au bout de la laisse par laquelle il est tenu, on va laisser un peu de mou, et il va aller pouvoir se balader dans les rues du village et rencontrer ses représentants. Donc en effet, il y a le personnage du maire qui arrive assez tôt dans l'histoire, et qui va contrebalancer la figure romantique qui est la Turque, complètement à l'ouest, complètement au-dessus du plancher des vaches. Elle plane à 3000, elle a des idées folles, c'est une artiste.
Et mais lui, en même temps, face au capitalisme, elle envoie des oies qui gagnent.
Oui, c'est ça, elle se bat contre l'ogre du capitalisme avec ses oies, parce que son manoir est gardé par deux oies qui sont aussi efficaces que le Doberman et beaucoup moins chères.
Pardon, je vous laisse reprendre.
Du coup, je reprends sur la figure du maire qui, en contrepoint de la figure romantique de la Turque, lui est un personnage pragmatique. Pragmatique et drôlatique, puisqu'il va donner à Roland la mission. Tout le monde lui donne une mission à Roland, c'est un peu le sauveur du village, le sauveur de ce village en perdition. Il va lui donner la mission de créer une affiche publicitaire pour le village. Et il trouvera le slogan « Sainte-Honorine, vous n'en reviendrez pas ». Et en effet, je raconte un petit peu cette désertification des villages où il y a plus de pierres que d'habitants, plus de bétail que d'habitants. Je raconte que le maire doit être à la fois fin psychologue, urbaniste, architecte. Il doit cumuler toutes ses fonctions pour pouvoir faire vivre son village, mais aussi gérer le commerce local, etc. Donc je raconte un peu cette vie des villages d'aujourd'hui qui ne manque pas de charme et qui fait un décor merveilleux pour n'importe quelle histoire.
Qui ne manque pas de charme, mais vous écrivez quand même, enfin, le maire dit, et donc vous dites, les enterrements sont le dernier moment collectif.
Ouais, c'est vrai, il y a plus d'enterrements que de mariages, mais ça c'est un fait. À l'église de Sainte-Honorine, il y a plus d'enterrements que de mariages. Donc en effet, les mariages, les enterrements, ce sont des événements collectifs où on célèbre la vie, où on célèbre une vie qui vient de passer. Et ces événements rythment. Non, alors il n'y a pas de mariage. Il y a peut-être l'horizon d'un mariage dans ce livre qui va se dévoiler, mais il y a surtout des enterrements qui vont rythmer la vie du village en effet.
Dans le livre, il y a beaucoup d'humour. Moi, je me souviens de Mercure, c'était pas très drôle. Mercure, c'est votre récit en ligne, qu'on peut toujours trouver d'ailleurs.
Non, c'est une performance.
Vous l'avez arrêté.
Voilà. Je l'ai effacé. C'est resté une performance évanescente sur Internet. Ouais.
Alors moi, dans mon souvenir, il n'y avait pas beaucoup d'humour. Là, il y en a. Ouais. C'est quelque chose que vous êtes autorisé, qu'à l'époque, vous n'osiez pas vous autoriser. C'est parce que le sujet l'imposait.
Je ne sais pas si on peut s'autoriser à être drôle. Déjà, bon, bah, je remarque, en fait, je le découvre avec surprise que les gens rigolent à la lecture de ce roman. Bon, moi, je me suis marré en l'écrivant. J'ai vraiment une joie, je milite pour la jubilation d'écrire. Enfin, j'ai envie que le plaisir soit total, et ce plaisir ne doit pas négliger le sourire, le rire. Et il est vrai que l'humour est arrivé dans ma vie peut-être plus tard que dans mes 20 ans, où à 20 ans on est un peu stressé, on n'est pas vraiment soi-même, introverti. Voilà, aujourd'hui j'ai 37 ans et j'ai eu le temps de vivre, j'en ai plus grand chose à faire en fait, et c'est comme ça qu'on rigole mieux.
Et bien on va écouter de la musique, je ne sais pas si on va rigoler, mais je crois que c'est plutôt joli ce qu'on va écouter. You're at my Family, voilà, on était en train de parler avec Pablo et voilà, on se fait avoir. Family Stereo, ça s'appelle Fault Lines.
Sur la falaise où j'ai pris l'habitude d'épier la mer, le plus souvent il n'y a que moi. Tout seul avec les mouettes volant à ma hauteur, qui me donnent le sentiment d'être des leurs. Sur ma falaise, je regarde la houle arriver d'Islande, longer la côte britannique et venir mourir ici en un spectacle épique. Sur l'épaule velue de ce géant de calcaire, dont les muscles noueux plongent dans le sable humide, je sens mon pouls s'accélérer. L'odeur de la terre et la couleur du ciel forment un mariage de cœur plutôt que de raison. Le soleil se fixe dans une fleur embrasée au crépuscule où se répètent toutes les couleurs que le jour a connues. Le gris perlé du matin, le jaune pâle du midi, jusqu'au bord rouge et orangé d'un rose éclatant à l'approche du soir. Le soleil incandescent, les pluies torrentielles, les nuages chargés d'éclairs, le vent roulant sur les champs dénudés, tout est là, à ma portée. J'en saisis la beauté et le mouvement parfait, car il est simplement naturel.
Charles Flamand, vous êtes toujours avec nous pour votre roman Chez la Turque, dont vous venez de nous lire un extrait, alors qui est plus dans la veine poétique du roman. On a beaucoup parlé de l'humour, mais il y a aussi ces passages-là. Un premier roman donc chez un éditeur. Un roman, c'est un auteur, c'est un texte, mais c'est aussi un éditeur. Vous le remerciez à la fin, vous dites que c'est un des premiers... Pour remercier un des deux autres... Alors, je vais y arriver. Il y a deux éditeurs qui s'appellent Amaury Joubert et Pierre et Paul Girouane. Hein, mais c'est carrément catastrophique. Je crois qu'on va remettre de la musique et puis je vais rentrer chez moi. Et vous dites que la rencontre avec eux a été importante et qu'ils sont plus d'un éditeur, que ce sont des partenaires littéraires. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ils sont d'un partenaire littéraire?
C'est sûr que, pour revenir à votre première question... Le partenariat avec un éditeur est quelque chose d'absolument essentiel pour faire un livre. Déjà, c'est comme un coup de foudre. Il y a un coup de cœur sur un texte. Déjà, ça, c'est tellement rare. Trouver cet éditeur, c'est comme trouver la femme ou l'homme d'une partie de sa vie. Et ça, c'en est le rejeton. Ce petit livre.
Mais ça veut dire qu'ils vous ont fait travailler, ils vous ont fait beaucoup travailler ?
Oui, ils m'ont fait travailler, ouais, parce que en fait, ce texte, j'ai commencé à l'écrire en 2020. J'ai eu plusieurs sessions de travail intenses dessus, puis je l'ai laissé reposer. Et quand Amaury est venu me voir avec cette idée de lancer une maison d'édition, déjà, j'ai trouvé que ce geste était complètement fou. On voit ce que donne le livre aujourd'hui, le recul de la lecture, de l'attention, se lancer à 30 ans dans cette aventure, c'est quand tout le monde recule, eux, ils avancent, et je voudrais saluer ce courage. Quand il est venu me voir avec ce projet, il m'a demandé des textes, il y a eu ce coup de cœur dont je parlais, et ensuite un travail de fond sur plusieurs mois, où en fait, moi, mon écriture, elle est un peu désordonnée, c'est un peu foutraque, un grand bazar, et il y a eu cette aide, ce partenariat, ce troisième œil, qui est venu mettre de l'ordre dans tout ça.
Il aide à construire le récit, il aide à élaguer peut-être, parce que je crois qu'un éditeur, c'est souvent quelqu'un aussi qui aide à couper.
Alors non, il m'a fait des propositions de coupe. Alors à chaque fois, ce sont des propositions, je les suis ou je ne les suis pas, mais souvent, elles étaient totalement justifiées et j'embrassais ces remarques, elles me faisaient avancer. Mais ça a été plutôt des propositions de réécriture, c'est-à-dire pas forcément coupées, mais là, ce personnage secondaire, par exemple, les enfants de la Turque et ses employés à la maison, il faut les développer, ils n'étaient pas assez complexes, ils n'avaient pas d'horizon, ils n'avaient pas de personnalité, mais ils étaient là. Donc il y avait pas mal de trous à combler comme ça dans les murs de cette bâtisse.
Alors, on va quand même citer, hein, parce que c'est une jeune maison d'édition, on va citer les deux autres titres qu'il publie. Hugo Giton, assis là sur la plage et par-delà le consentement d'Évariste Pimplis, donc, avec Chez la Turque de Charles Flamand, sont les trois premiers textes que publient les éditions Au Hasard. Audition, pour que je dise dans l'ordre, Au Hasard, édition. Sur leur site internet, ils ont quasiment une déclaration d'intention, une proclamation de mettre à l'auteur une littérature d'histoire avec un S. Mmh. Ça vous parle, ça? Parce que vous, quand même. En incipit, vous avez cité Alexandre Dumas, qui est le roi de la littérature d'histoire. Mmh. C'est bien Alexandre Dumas, j'ai peur d'avoir dit une bêtise.
C'est bien Alexandre Dumas. Ouf. Une plume, de l'encre, le pouvoir. Ça me parle, d'autant que en fait, ce livre, c'est un peu le manifeste de leur collection, c'est-à-dire que c'est la première pierre sur cette voie qu'ils vont lancer, qu'ils ouvrent, ce réel détraqué, où la fiction est au cœur. C'est vrai qu'ils ont fait le constat qu'aujourd'hui, le récit de soi, intimiste ou thérapeutique, était quand même principalement ce qui se publiait, et que la fiction perdait du terrain. La fiction, non pas pure, mais hybride, mêlant le vrai et le faux. Le roman vrai, le vrai roman, voilà. Nous, on est du côté du vrai roman. Et de l'histoire, de l'imaginaire, du conte. Et c'est vrai qu'ils font ce pari-là. Alors après, ça n'engage qu'eux, mais moi, je suis la première pierre de ce projet.
Vous écrivez... Voilà, d'ailleurs, c'est pas vous, c'est... J'ai oublié son prénom. Magenta. Roland Magenta. Écrit dans Chez Lature. Qu'est-ce que c'est dur d'écrire, me dis-je, en m'arrachant les sourcils de dépit. Ça va, vous avez encore des sourcils. Je n'y prends aucun plaisir, non, mais de la douleur, sans arrêt à ne plus savoir qu'en faire. Je peux presque sentir la corde se resserrer autour de ma gorge à mesure que j'avance dans ma phrase. Et chaque fois, je risque l'asphyxie du dactylo. Par ailleurs, dit-il, je me relis très peu de crainte d'avoir honte du résultat au prix de tant d'heures courbées sur ma tâche. Je doute de réussir à en tirer quelque chose de mieux qu'un amago. Là encore, c'est personnel ou vous souffrez moins, j'espère quand
non,
même.
Mais alors, c'est vrai que c'est un chemin de croix. C'est des années à se donner cette discipline. Bon, c'est comme un sportif, il va pas vous dire qu'il y est arrivé sans souffrance.
C'est au début, hein, c'est quand il commence en même temps, et puis il a une vieille machine à écrire, si j'ai bien compris.
Ouais, il a une vieille machine à écrire, la reine du traitement de texte. Et en effet, ça parle de ses premières tentatives de l'écriture. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je pense qu'on passe de l'autre côté. On ne cherche plus sa voix, on a comme enclenché une dynamique qui ensuite roule toute seule. Mais c'est vrai qu'au début, pour enclencher cette dynamique, ça demande quelques efforts.
Mais ça vous fait rire, vous disiez, vous étiez plutôt joyeux à la fin.
Eh bien, vous voyez, j'arrive à en rigoler encore aujourd'hui. Quand...
Parlez-nous un peu d'Yves Bonnefoy, dont vous parlez à la fin du livre. C'est quelqu'un qu'on ne connaît peut-être plus aujourd'hui et ça serait bien d'en parler un peu de lui
poète,
quand même.
C'est un poète, c'est un grand, grand, grand poète qui mérite d'être lu. J'en avais fait la connaissance parce qu'il était au programme quand j'étais en terminale, Les planches courbes, que j'ai lu. J'ai pu ensuite le rencontrer au colloque de Cerisy et lui envoyer mes premiers textes de manière un peu folle. J'ai envoyé mes premiers poèmes au Collège de France à son attention et il m'a répondu. C'est l'inachèvement qui est la voie. Et justement, quand au regard de ces souffrances, les souffrances du jeune Werther, les souffrances du jeune écrivain,
Charles Werther, il est pas plus normand.
Eh ben, il faut se rappeler ça, que c'est l'inachèvement qui est la voie. En fait, quand un texte est ouvert, peu importe le moment où il sera fini, ce qui est important, c'est voilà, c'est pas la destination, c'est le voyage. Et il y a bien des surprises sur ce chemin.
C'était compliqué de faire accepter à vos éditeurs d'insérer des dessins. Il y a des très jolis dessins dedans.
Oui, c'est
de Françoise de la Chapelle, j'ai noté.
Donc c'est ma grand-mère. Ma grand-mère qui a fait les beaux-arts, qui a été une peintre d'atelier et pas de musée ni de galerie. Elle a peint dans le secret de son atelier. Elle avait un superbe trait, notamment dans le dessin. Et c'est drôle comment en fait tout s'est fait de manière comme si les planètes étaient alignées, comme s'il y avait une énergie en fait qui était venue de ses aïeux vers moi. Et en fait, ces dessins prennent tout naturellement leur place dans cette histoire, puisque le personnage principal est un modèle vivant et que ce sont des études de corps. Donc
À vous écouter, je réalise quelque chose, c'est que dans votre livre, où c'est en quelque sorte un corps étranger qui arrive dans une famille. Finalement, ce que vous avez écrit, c'est un roman familial. C'est vous et votre famille,
oui,
dedans.
Mais de manière détournée.
Si on vous connaît, on le sait peut-être, mais vous savez ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. C'est ce que vous avez voulu faire.
C'est ce que j'ai voulu faire. J'ai voulu jouer avec le vrai, le faux, et tisser ce tissu du texte pour en faire quelque chose d'original et singulier, comme vous disiez.
Très bien. Alors, pour ceux qui vont partir au bord de la mer chez Ours prochain, on leur signale que le 11 juillet, vous serez à Dieppe, à la Maison de la Presse.
À Dieppe, la Maison de la Presse.
Et le 25 juillet, au Quai des Écrivains, qui est un festival littéraire à Quiberon.
À Saint-Pierre-Quiberon, oui.
Et après, vous continuez votre tournée.
Oui, j'ai des rendez-vous en septembre.
On vous suit sur les réseaux.
À Château-Thierry, il y a les réseaux. Et puis, venez nous voir à Sainte-Honorine. Vous n'en reviendrez pas.
la mairie de la Sainte-Honorine est contente ?
C'est très drôle parce que ce roman voyage à travers les mains de ses personnages. C'est-à-dire que le maire a appris qu'il devenait Alain Baudiou. Il s'appelle Alain Bauda, il devient Alain Baudiou. Il est le premier à en rire et il passe du coup ce mon bouquin à nos voisins les Belges qui ont aussi un rôle important dans cette histoire. Donc voilà, comment un roman a réussi à voyager à travers les mains de ses propres personnages, je trouve ça magique.
Eh bien merci beaucoup Charles Flamand, merci d'être passé par le studio de Radio Campus Paris. Bonne soirée.
Merci Christophe.
Voilà, c'était La Relève préparée, présentée par Christophe. La réalisation était assurée par le Cherbourgien, je ne sais pas comment on dit, qui s'appelle
Cherbourgeois
Pablo, qui donc à Cherbourg, je viens donc d'apprendre qu'à Cherbourg aussi, on porte la coupe mulet. Vous pourrez bientôt retrouver cette émission et toutes les autres sur le site de Radio Campus Paris. Et puis voilà, à 19h, c'est la matinale de Radio Campus. Là, j'ai un peu tout mélangé, mais j'ai appris trop de choses ce soir. Bonne soirée.